C'est ainsi que fut construit le protocole X25, sous le nom de code de Transpac, qui marchait en communication exclusive de point à point. C'est-à-dire qu'un point de communication ne pouvait communiquer qu'avec un autre seul point à la fois. Le fonctionnement est donc un peu comme un appel téléphonique. Si vous voulez contacter un autre service, il fallait raccrocher virtuellement, recommencer tout le protocole d'appel pour joindre l'autre correspondant. Et pour revenir au prêt, eh ben, rebelote. Mais ce principe avait l'immense avantage de passer par un réseau centralisé, donc sécurisé, avec un usage unique à l'instant et très facilement facturable. En termes techniques, on appelle ce type de vision une vision télécom, à la différence d'une vision informatique, comme Cyclades, qui promettait l'anarchie. Je vous laisse imaginer l'immense difficulté pour les ingénieurs informaticiens quand il faudra, 40 ans plus tard, tout convertir en microservices par API unitaire, un concept venu d'Internet, donc des États-Unis, comme par hasard.
Comme vous dites, comme par hasard.
La France est en pleine modernisation dans les années 70. Plutôt que confier la gestion du réseau à un ministère, une entreprise sera constituée. Une entreprise, c'est jetable, donc aucun appel d'offres et aucun remords si le projet ne marche pas. On enverra les salariés à la NPE et puis voilà. Oui, la NPE, c'est Pôle emploi, hein, pour votre jeunesse. La société Transpac, qui va exploiter le réseau industriel de téléinformatique du même nom, sera constituée en 1978. Mais très vite, il apparaît que ce réseau ne sera jamais assez rentable tant qu'il ne sert que pour remonter les informations des directions régionales d'impôts ou les transactions interbancaires. Pour faire du volume, parce que Transpac était facturé à la durée de communication et à sa distance, comme pour le réseau téléphonique vocal, il fallait trouver un levier visible dans tous les foyers et qu'on puisse nous aussi exposer dans nos sitcoms françaises, même si AB n'arrivera que plus tard. Le levier sera de proposer un terminal pour le grand public, qu'il s'en serve et que, du coup, ce trafic crée de la facturation et qui permette aux PTT, les postes, télégraphes et téléphones, de pouvoir enfin financer la fin des télégrammes. Car le plan de licenciement des demoiselles couleuses de lettres dans le papier bleu ne peut se faire comme ça, bien sûr.
Ah, oui, c'est vrai que les télégrammes étaient encore courants dans les années 70.
Dans son pensum, l'informatisation de la société, que la légende dit qu'il a écrit en une nuit de 1978, le très brillant intellectuel Alain Minc écrira « Le développement d'un réseau de transmission de données et de recherche d'un haut degré de normalisation sont l'épine dorsale d'une politique de communication. Transpac a pour objectif une diffusion plus large de l'informatique, un accès facile et peu coûteux, un accroissement des services rendus aux usagers, il peut promouvoir une normalisation poussée. Son succès est nécessaire. » Alain Minc avait tout à fait raison. Quitte à déployer une large infrastructure de communication, il fallait qu'elle serve. La France de 1974 ne peut se permettre de construire un réseau dispendieux sans succès. Il n'y a pas à dire, il fallait avoir son génie pour se rendre compte de l'évidence.
Attendez, vous parlez bien d'Alain Minc, l'avant-centre du Club du Mans.
Oui, et l'auteur de l'immense tube qui a fait chavirer bien des midinettes. L'après-crise est commencée. Rappelez-vous comment son passage chez Drucker en première partie de Claude François a manqué de tourner à l'émeute. Alain Minc, avant d'être footballeur et chanteur à succès, était avant tout une tête bien faite qui n'hésitait pas à rappeler l'inoubliable. Car l'évidence et la palissade sont deux choses toujours bonnes à asséner avec le plus grand aplomb possible. Il a formé trois générations d'intervenants toutologues sur les plateaux de télévision, ne l'oublions pas.